Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Alors, si vous avez raté les deux premières heures d'émission, pas de panique. Séance de rattrapage tranquillement en podcast. Ce sera cet après-midi. Si vous voulez nous écouter sur le Paris Saint-Germain, très bon débat. Champion très tôt, peut-être champion ce soir. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1? On a parlé de Tadej Pogacar, de Romain Ntamack. Donc, n'hésitez pas et merci de nous écouter toujours aussi nombreux. Alors, dans quelques instants, la seconde des GG, nous allons parler de Didier Deschamps, de Fabien Galthié, nos deux sélectionneurs critiqués ces derniers mois. Est-ce qu'on est trop dur avec eux? Venez réagir au 32-16. 11h30, le dossier des GG. Un ostéopathe qui s'occupe notamment de sportifs de haut niveau viendra nous éclairer sur un nouveau concept. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, si évidemment ça a une résonance, un écho face à vous. Il s'appelle Olivier Bouillon, oui, vous ferez les cobayes, exactement. Il sera face aux grandes gueules du sport. Et puis 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Quel est le débat caché du jour? Ah,
Denis va faire doubler. La contre-attaque, c'est le débat caché.
Je pense que c'est par rapport au geste déplacé des joueurs du Real Madrid.
Obscène, tu peux dire.
Obscène, oui. Exactement. Et qui passe devant une commission, je crois, c'est ça?
Oui, exactement.
Voilà.
Ok. Pourquoi pas? Très bon sujet, ouais. C'était dans l'actualité. Bravo mon cher Denis. Sarah?
Moi je me disais que je suis très tennis aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Faire un petit coucou à Lise Cornet qui a repris sa carrière contre toute attente. Voilà.
Et peut-être en équipe de France bientôt.
De France avec Julien.
Julien, ton débat caché.
Très bon Sarah. Moi, j'ai deux choix.
Ça gagnera pas.
Si, c'est possible.
Ah ouais.
Ouais, je le connais, je sais. Un sujet où tu nous mets en difficulté sur la sortie de Teddy Riner et le voile dans le sport.
Ouais.
Oui. Le Brésil qui se retrouve sans coach à un an de la Coupe du Monde.
Ah, ça, c'est une très bonne information. Oui. Hier, avec le Brésil sans coach et par rapport au voile, j'ai déjà eu les honneurs de CNews cette semaine. Je sais pas si vous avez suivi cette séquence.
Je t'ai envoyé le
avec
texto.
Pascal Pro, c'est toi qui m'as prévenu. Ouais, après, on a pu échanger par texto.
C'est énorme.
Parce qu'il pensait que j'animais toujours Bartoli Time. Et donc, il pensait que c'était moi qui.
Deux fois cité, voire trois.
Oui. Donc, voilà. Face à la postérité. Et on salue évidemment Pascal Pro. D'ailleurs, tu l'as bien connu. Toi,
bien sûr. J'embrasse mon ami Pascal Pro.
Bon, c'est quoi le.
Nous parler de Lindsey Vonn qui a rebooté au podium à 40 ans,
ça bien.
8 ans après son dernier podium. C'était pour les finales du Super G à Sun Valley. Tu vas nous demander si elle peut être considérée comme une des plus grandes sportives de tous les temps, un truc comme ça.
Ok, très bien. Franchement, 4 très bonnes propositions pour ce débat caché.
Ah, lui, c'est un faillot, il en a donné 2.
Il en a donné 2. Franchement, vous auriez pu en donner 10.
C'est pas ça.
Vous avez tous faux. C'est zéro.
Donc il va pas être bien.
T'as vu comment il est? Donc il va pas être bien. T'as vu, il est content qu'on le trouve pas.
Mais ça va être incroyable, c'est à 11h45. Allez, tout de suite, on va débuter ce débat avec cette citation de William Shakespeare. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a dit un jour, le corbeau critique la noirceur.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Du nouveau sur Jésus? Oui. Il est aujourd'hui légitime de se poser cette question.
3-2-1-2.
Vous savez, quand vous prenez des buts, vous ne les prenez pas sur la largeur.
Au-delà des mystères de la nativité et de la résurrection, qui était l'homme?
C'est pas une question de déguiser, ça. Hein
non. Le rugby, c'est pas la Star Academy. C'est pas Koh-Lanta non plus.
Charismatique, cela ne fait aucun doute.
Si vous ne me prenez pas pour une galinette cendrée, un peu, non?
Mais aussi colérique et parfois violent contre ceux qui trahissent sa parole.
Quand j'aurais envie de polémiquer, je polémiquerais, mais là, j'ai pas envie. Voilà.
Jésus était-il un guérisseur exceptionnel?
C'est un peu la théorie de Darwin. Pour survivre, c'est pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent. C'est celles qui s'adaptent.
Compatissant et généreux, son message va bouleverser les ordres religieux établis, mais aussi façonner de nouveaux équilibres politiques, défaire des empires et unir des peuples pour créer des nations nouvelles.
Oh là 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 là.
C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis, quoi.
Il n'y en a pas une qui sort de normal.
C'est le célèbre pilotis, évidemment.
On a respecté les
on embrasse Didier Deschamps et son célèbre pilotis. Peut-être des vacances au Cap Ferret, prévues dans pas longtemps. Dimanche 23 mars, les hommes de Didier Deschamps renversent la Croatie et se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Samedi 15 mars, les hommes de Fabien Galthié, pourtant mal partis, remportent le tournoi des Six Nations. Ces dernières semaines, les deux sélectionneurs des plus importantes équipes nationales ont essuyé, vous le savez, et même dans cette émission, pas mal de critiques. Alors même jusqu'à se demander s'ils étaient encore les hommes de la situation. Didier Deschamps a même confié il y a quelques jours dans le Figaro à propos des critiques. Deux points, ouvrez les guillemets. Je vais vous dire une chose, c'est factuel. Je ne cours pas après cela, mais il y a une reconnaissance qui est plus importante à l'étranger que dans mon propre pays. Je ne me bats pas pour l'avoir plus en France. Je ne critique pas la presse française en général. Cela fait partie de la culture. C'est oui, mais à l'étranger, il n'y a pas de mais. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Sommes-nous trop durs avec nos sélectionneurs? Oui ou non? Denis Charvet.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Bah, je vais plutôt dire non.
Julien Beneteau.
Avec ceux deux-là particulièrement.
Ok. On rappelle que toi aussi, tu es un sélectionneur.
Bon, on peut être dur avec moi, mais avec ces deux-là.
Oui, oui. Non, mais c'est bien d'avoir ton avis, en tout cas, dans ce costume de sélectionneur. Simon Dutin.
Non.
C'est non. J'ai du oui, j'ai du non. On va commencer avec toi, Denis Charvet. Pourquoi oui?
Ben parce que d'abord c'est des postes qui sont tellement exposés qu'on n'a pas le recul nécessaire quand tu l'as jamais fait ou tu l'as jamais vécu de l'exposition quoi et de tout ce que tu prends dans la figure même si c'est le jeu de c'est le revers de la médaille quoi mais en même temps parfois ça je m'aperçois que dans les journaux parfois ça dépasse les limites donc moi-même parfois je la dépasse. Je me rends compte, je suis conscient que je la dépasse. J'attaque jamais l'homme. Ce qui est important, c'est jamais attaquer l'homme, c'est respecter le sélectionneur en tant qu'homme. Mais après, bon, on fait partie des 65 millions de sélectionneurs. On est des passionnés. Moi, je sais qu'après la Coupe du Monde, j'ai mal réagi avec Fabien, mais j'ai pas réagi contre Fabien. J'ai réagi parce que j'avais envie de réponse, comme le commun des passionnés du rugby français qui attendaient des réponses de sa part. Et moi, j'étais frustré. La frustration m'a amené, à un moment donné, à péter les plombs, chose que j'aurais pas dû faire. Il m'a appelé le lendemain, on s'est expliqué pendant 45 minutes, calmement. Mais c'est vrai que parfois, on touche des limites qui sont pas acceptables. Et donc, en retour, je comprends qu'ils soient énervés, je comprends qu'ils en veuillent à certains que ça dépasse le cadre de leur fonction. Parce qu'encore une fois, ça reste des sélectionneurs. Ceux qui choisissent, c'est du sport, ça reste du sport. Et le problème, c'est que parfois, ça va au-delà du sport.
Bien sûr, Pitkowski.
Pourquoi je dis non? Parce que je le mets dans le contexte actuel. Ce sont des postes exposés, certes. Mais aujourd'hui, malheureusement, les générations et dans le monde dans lequel on vit, on donne tous notre avis, même si on n'est pas des spécialistes. Et en plus de ça, les canaux de commentaires se sont démultipliés avec les années. Donc en fait, il y a autant de canaux que d'avis qu'il faut donner. Et pour te démarquer, eh bien, il faut que tu trouves des critiques, mais au-delà de ça,
il faut qu'elle soit justifiée, les critiques, Sarah.
Oui, mais t'as raison, quand tu commentes sur les réseaux sociaux, mais 99% du temps,
je pense pas qu'il attaque les réseaux sociaux, Didier Deschamps.
Un journaliste, son audience, elle est aussi sur les réseaux sociaux. On peut pas séparer la presse de l'influence. C'est la même chose.
Lui, il attaque ceux qui sont en conférence de presse face à lui.
Parce qu'il répond à ces gens-là. Ils sont en face d'eux. Encore heureux qu'ils commencent pas à répondre sur les réseaux sociaux. Sinon, il s'en sort pas. Et je vais faire la différence entre Galthié et Deschamps. Attention, la longévité de Deschamps forcément l'expose. Tu peux pas pendant 12 ans, tu peux pas être au sommet. C'est quand même Didier Deschamps qui a le plus beau palmarès avec l'équipe de France. Donc en fait, cette détestation à certains moments, elle va aussi avec la longévité avec laquelle il a
le poste. Lui, c'est lui qui a resté. Attends, là, par contre, tu peux pas dire ça. C'est lui,
pourquoi
c'est... Parce qu'il sait très bien que plus il va durer, plus il va rester, plus ça sera compliqué pour lui.
Bah oui.
Tu le dis. Ben oui, mais c'est son choix à lui. Donc je veux dire,
donc, il s'expose. D'ailleurs, lui, il a dit en conférence de presse, je sens qu'il y en a certains qui en ont marre de voir ma pomme.
Bien sûr. Mais oui.
Mais oui, mais c'est.
Mais oui, mais donc, c'est... Pourquoi il dure si longtemps? Pourquoi il dure si longtemps à ce poste-là?
Parce qu'il y a des compétences.
Regardez les résultats qu'il a eus, Didier Deschamps.
Bah ouais.
Il commence en 2014, quart de finale de la Coupe du Monde, finale de l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde. Bah OK, il y a un accident à 1 euro. Refinale de Coupe du Monde et redemi à l'Euro. Je vous dis, il serait sélectionneur de l'Angleterre, le plus grand pays de football, qui n'a rien gagné depuis 66. Ce sera un héros national.
Oh, arrête. Mais les tabloïds, pour le moindre truc, ils sont capables de descendre.
Il a gagné.
Ils se mettent descendre sur le moindre truc.
Mais là, je suis pas d'accord. Et toi, s'il sera toujours un héros en France, tu verras qu'après sa carrière, il va rentrer.
Il perd 2-0 en Croatie. Il faut le brûler sur la place publique. Il y en a marre, c'est dépassé, etc. Et trois jours après, il renverse l'opinion. On est trop dur avec eux. Pendant le tournoi Destination, on se demande, enfin, pas moi, et Simon non plus, qui l'a défendu, comment on peut oser remettre Galtier en question. Il a perdu en quart la Coupe du Monde.
Pas remis en question.
Bien sûr, après l'Angleterre, le tournoi, est-ce que c'est l'homme de la situation?
On peut remettre en question des choix qu'il a fait.
Depuis qu'il est là,
il
a mis un système, une organisation en place. Depuis qu'il est là, on joue la gagne sur chaque match. Avant, avec n'importe quel sélectionneur, même les tournées d'automne où on recevait les Blacks, etc., on pouvait prendre des branlées de 40 points. Avec Deschamps, on est compétitif sur chaque phase finale. On n'a jamais un accident. On se qualifie toujours pour les Coupes du Monde, pour les Euros, ce qui n'était pas vrai avec les autres sélectionneurs. Et on est compétitif. Oui, c'est pas flamboyant. OK. Mais le football de sélection, c'est pas un football de club. On va voir quand Zizou va reprendre l'équipe de France, si ce sera mieux en termes de jeu et en termes de résultats. On est très, très, très dur avec ces deux-là, je trouve.
Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme ça? C'est-à-dire que Didier Deschamps, tu parlais, en Angleterre, ce serait un héros national. Mais en France, ça l'est quelque part, même s'il est critiqué par rapport à son parcours. Mais
deux joueurs et sélectionneurs. Une cote de popularité de Deschamps aujourd'hui.
Ah, elle est très bonne. Moi, je suis sûr qu'elle est très bonne.
Ouais. Moi aussi,
je suis sûr qu'elle est très bonne. C'est là où je te trompe. Je pense que c'est un héros.
Mais après, il y a critiqué les choix des sélectionneurs et je pense qu'eux, ils sont tout le.
Leur métier, c'est de faire des choix.
Ils sont au clair avec ça. Enfin, on l'imagine, Simon Dutin.
Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais entendu un sélectionneur nous dire que vraiment, c'est trop de compliments, trop d'honneur, trop de tapis rouges. Bon, quand ça gagne, ils sont bien contents quand même. C'est rare d'être le héros de tout un peuple, d'une population. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ils embrassent ce rôle et cette fonction quand on les porte au nu. Donc, à ce titre-là, ça a rappelé qu'ils ont des postes exposés. Moi, j'en ai un peu marre de la petite musique du genre en gros les journalistes ils connaissent rien, ils ont pas été joueurs, ils ont pas été au top niveau. Il y a un petit peu de ça. Moi, j'ai suffisamment défendu Deschamps justement contre vents et marées en soulignant qu'il y avait des résultats qui plaidaient pour eux. Tu parles de l'Angleterre. Moi, j'invite Didier Deschamps ou Fabien Galtier à aller se documenter dans la presse étrangère pour voir ce que prennent leurs confrères chez nos voisins. Va en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Angleterre, tu vas voir ce que c'est de se faire défoncer par la presse. Je suis désolé. On est plutôt soft et ça participe de ce qu'on qualifie parfois d'un déficit de culture sport. Tu vois, on manque de culture sportive. Alors évidemment, on s'intéresse, il y a un effet de loupe sur les grands événements. Bon bah tu te rates, tu déçois un petit peu, il faut accepter parce qu'encore une fois, sans faire de populisme de bas étage, il y a tout ce qui va avec, il y a la renommée, il y a le salaire, il y a la fonction, il y a ton après-carrière, les contacts, les portes que ça t'ouvre une fois que tu lâches le job. Je veux dire, ils sont trop critiqués, les pauvres chatons, mais va voir les infirmières qui bossent 19 heures par jour et qui se font insulter par des gens dont elles s'occupent toute la journée. C'est ça, Et nous, on est payés pour en parler. Oui, on a quand même le droit de donner notre avis. On a le droit de dire que c'est des génies et que ce sont les meilleurs du monde et que ce sont les meilleurs de l'histoire et que ce sont des légendes du sport, on a aussi le droit de dire de temps en temps qu'ils n'ont pas répondu totalement à nos attentes, aux attentes légitimes d'un public qui peut-être Simon, a été mal habitué dans le passé, mais il faut quand même pas plaisanter pour utiliser un mot correct. Deschamps n'a pas été cloué au pilori. On a perdu. Les joueurs ont été au pilotis. On a perdu en Croatie. Je veux dire, les joueurs ont été autant critiqué, voire plus que le sélectionneur, me semble-t-il.
Simon, toi tu réagis par rapport à toi, moi, par exemple, Denis, par rapport à Fabien Galthié, je ne crois pas avoir été dur. C'était une attente de personnel.
Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs, parce que tu parles d'une histoire après le quart de finale de Coupe du Monde?
On vit le plus gros échec de notre histoire, puisque c'est une Coupe du Monde en France où on perd en quart de finale. Il ne va pas à la presse, il ne répond pas à aucune question. C'est un choix. Mais c'est son rôle, et c'est ce que je lui ai dit au téléphone quand il m'a appelé. Je lui ai dit, c'est ton rôle de répondre, de rendre des comptes. De rendre des comptes, c'est pas, on te demande pas de rendre des comptes pour rendre des comptes. On te demande des explications pour le passionné ou les passionnés que nous sommes.
Et tu en avais marre qu'il joue un peu avec la presse et qu'il ne veuille pas répondre après cet échec.
Oui, mais c'était sciemment qu'il le faisait. Il voulait se protéger. Et lui, bon, il était déçu, évidemment, qu'il était aussi. Mais évidemment qu'il peut être plus déçu que nous, mais nous, tout le monde était déçu. C'était vraiment un crève-cœur, ce quart de finale.
Et donc,
perdu.
Il prend mal les critiques.
Mais cela, c'est pas les critiques. C'est que moi, je dis, à un moment donné, je pète les poches, je dis, j'en ai marre qu'ils répondent pas. C'est pas.
Ouais, ça va quand même comme pétage de plomb.
Oui, mais lui, il le prend mal parce qu'il dit, je suis fatigué.
Oui, mais pourquoi il le prend mal? Parce que ça vient d'un ancien rugbyman, voilà, d'un ancien international. Exactement. Du rugby. Donc, forcément, exactement, ça touche.
C'est une légende qui a quitté le Stade Toulousain.
Lui a osé quitter le Stade Toulousain.
Mais non, mais le lendemain, je comprends parce qu'il m'appelle, mais tu sais, moi, je suis né à Cahors. Dans la même clinique que mon oncle, on est caducien tous les deux. Tu connais mon fils, mon père vient de m'appeler.
D'accord.
Non, mais c'est pas ça.
Oui,
non,
mais c'est la fin.
Alors on joue la corde sensible, quoi. Enfin,
mais non, mais c'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que
ça fait mal quand ça vient de la famille.
Quelque
ça fait
part,
mal.
Il avait raison. C'est pour ça que je dis
absolument.
Ça.
Absolument.
C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'effectivement, j'ai peut-être pas à faire cette sortie et que cette sortie l'a touché parce que c'est passé dans la première page de la Dépêche partout et qu'il y a une résonance au niveau de sa famille et que quelque part, ça touchait l'homme. Mais moi, je n'ai jamais voulu toucher l'homme. La vérité, c'est qu'au bout du compte, tout le monde attendait des réponses qu'il n'a pas eu. Et le lendemain, quand il m'a au téléphone, il me dit, mais dis-moi toi, puisque tu es plus fort que tout le monde, dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Ah mais je vais pas vous dire ce que je lui ai dit, mais
tu lui as répondu. Julien, toi qui es un sélectionneur, évidemment moins exposé que Fabien Galthié, que Didier Deschamps, quoique si un jour tu entraînes les hommes, enfin peut-être que ce sera plus exposé que le poste féminin, on le sait, aujourd'hui dans le tennis, est-ce que t'as ressenti ce costume, ce truc de dire ok, je représente la France, au moindre faux pas, au moindre truc, ça prend des proportions.
C'est vraiment, moi c'est toute proportion gardée, mais oui, on peut, comment dire, à ce poste-là, on peut pas faire l'unanimité et c'est comme ça. On est là pour faire des choix. Et les choix sont très subjectifs parce qu'un autre capitaine ou un autre sélectionneur au même moment avec les mêmes informations peut décider autre chose. Donc c'est la loi du job. Il faut essayer de l'expliquer. Moi j'ai toujours joué là-dessus, là, sur la transparence et l'honnêteté avec les gens que ça intéresse. Ma propre équipe, mes dirigeants s'ils me le demandent. Moi, parfois, la presse, entre guillemets, spécialisée sur ces rencontres-là sont beaucoup moins punchy ou demandent beaucoup moins de détails que peuvent ceux à quoi peuvent être exposés Fabien Galthié ou Didier Deschamps.
Romain nous appelle au 32-16. Bonjour, Romain.
Encore ?
Bonjour.
Oui, c'est pas le même Romain que lors du débat PSG. C'est un peu chaud. Non, c'est pas le même Romain.
Non. Moi, c'est un peu plus haut en France.
Ah, tu n'as pas de restaurant à Marseille, c'est ça que je veux dire.
Non, moi, c'est la Normandie, une boulangerie.
Ah, une boulangerie. Bah, vas-y, donne le nom comme ça. Attends, il n'y a pas de jaloux.
Boulangerie La Madeleine à Saint-Pierre-et-Lise.
Parfait. Et ben voilà, venez nombreux. Ça ferme. Mais tu ne travailles pas, là, dis-moi, dimanche matin ?
Samedi matin.
Ok, tu nous écoutais, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de participer. Alors, est-ce qu'on est trop dur, mon cher Romain ?
Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on prend des événements, un événement, en fait, et on est dur à ce moment-là. Mais je pense que quand ils auront fini leur carrière, on retiendra que c'était des grands entraîneurs et qu'on fait des grandes choses pour leur équipe.
C'est tout, Romain ?
Il
y a le four, là,
mais...
dans le
très court. Hein.
Mais il parle comme un supporter des équipes nationales et je pense qu'effectivement, c'est ça. Et on est un peu comme ça en France. C'est-à-dire que sur le moment, on est latin, on est un peu acerbe, mais on est capable de reconnaître les grands champions, ceux qui ont marqué l'histoire du sport en France.
Voilà. Pour rentrer à la postérité, il faudra attendre un peu, mais il faut attendre de ne plus être en fonction. C'est un peu
oui,
ça que je
bah
dis.
Oui.
C'est
bah
un
oui.
petit peu comme les grands ça, peintres, ça. Nos sélectionneurs,
oui, oui,
Romain.
Oui, enfin, si on peut le faire avant qu'il soit mort, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, c'est pour aussi. Ça que je dis que Deschamps est déjà un héros. Vous verrez qu'après sa carrière, il sera une vraie légende du football français.
Et il y a peut-être d'autres sélections qui viendront le chercher. pour son palmarès avec l'équipe de
là,
France.
Là, ça nous ferait mal au cœur. Mais ça nous ferait des bons débats dans les grandes gueules du sport. Merci Romain d'avoir été avec nous. C'est quoi ta spécialité dans la boulangerie ?
La madeleine.
Non.
Pas de chocolatine en Normandie.
La pâtisserie.
Si.
Pâtisserie pure, nous.
Ah, pâtisserie. Alors, quel est le bon gâteau, là, ou la bonne tarte que tu peux nous proposer ?
Ah bah, nous, notre spécialité, c'est le Trouvillé. Le Trouvillé. C'est Trouvillé. La Trouville.
Ah, oui.
Et bon, en fait, c'est un petit gâteau aux amandes avec de l'anis vert dedans.
Ah, c'est bon.
Super. Bah merci beaucoup.
Alors,
Romain,
deux rue du général Alain de Poitiers, rez-de-chaussée, studio RMC.
Voilà, Paris 15e.
Merci beaucoup, Simon Romain. Dutin.
Voilà.
Merci
et Julien Bennett est consterné. Il dit mais attends, on parle de cuisine et tout ça dans cette émission. Mais ouvre-toi un petit peu. Il n'y a pas que la petite balle jaune. Il n'y a pas que
qu'est-ce
ça. Il y a
aujourd'hui.
Il y a autre chose.
Que tu as fait.
Ouais, il va. Ah
ouais,
il t'agresse
aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a.
Cuisine. Maintenant, on va parler santé.
C'est pas ce qui s'est passé mardi. Tu te souviens pas? Il m'a un petit peu lâché. On devait jouer ensemble. Il est pas jamais.
Pour ça, tu viens.
Ah. Ouais, je suis un peu. Non, pas du tout. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Bah, justement, on va s'ouvrir à un autre métier. Alors là, c'est pas de la boulangerie. On va parler d'ostéopathie, même si parfois on pétrit la pâte, mais la pâte des sportifs. L'ostéopathie avec. Bah oui, bah faut prendre un
cœur, les copains.
Quelle transition.
Oh là là.
15 ans de métier. Hein. Ouais, allez, à tout de suite avec un ostéopathe qui s'occupe des sportifs de haut niveau. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
On n'avait pas resté piqué planté, ça bougeait quand même.
Oh. Jean-Christophe Drouet.
11h31, nous parlons de sport, mais aussi de notre passion, la gastronomie. D'ailleurs, peut-être que ça changera un jour. Les grandes gueules du sport s'appelleront autrement avec Julien Beneteau, qui adore justement nous parler d'autre chose que de sport, avec Sarah Pitkowski, avec Simon Dutin, avec Denis Charvet. Dans 10 minutes, le débat caché. Vous m'avez fait des propositions vraiment extraordinaires, je dois vous le dire, ce matin. Mais ce n'est pas ça. Vous êtes totalement à côté de la plaque. J'ai un autre débat à vous proposer et j'espère évidemment qu'il va vous plaire. Ça, ce sera dans 10 minutes. Ah, t'as trouvé, c'est quoi?
C'est la blessure d'Alexis Lebrun en finale face à son frère.
Ah, c'est pas mal. Bravo. T'as raison.
Bravo.
T'as raison.
Ça n'a rien à voir. C'est dans 10 minutes. Un invité aujourd'hui dans les grandes gueules du sport, une spécialité rarement dans la lumière, celle d'ostéopathe auprès de sportifs professionnels, Olivier Bouillon, et dans le studio RMC. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier.
Bonjour.
Alors vous êtes donc, tu es donc ostéopathe, tout le monde se tutoie dans la grande famille des grandes gueules du sport. Tu t'es occupé de nombreux sportifs professionnels, des footballeurs, des tennismen, des cyclistes, des rugbyman. Je sais que Denis Charvet est très intéressé, il aura beaucoup de questions à te poser. Beaucoup. Alors tu développes un nouveau concept, c'est passionnant, mais évidemment faut le vulgariser pour tous ceux qui nous écoutent. Tu fais de l'ostéopathie tissulaire. Ça consiste en quoi ?
Alors, en deux mots, c'est-à-dire que nous avons tous des symptômes qui peuvent affecter les différentes fonctions de l'organisme. Ces fonctions, en fait, font partie d'un écosystème qui cohabite dans un espace que ces supports des fonctions partagent, c'est le corps humain. En fait, qui est défini par des tissus qu'aujourd'hui on connaît beaucoup mieux, qu'on appelle les tissus conjonctifs. Fibreux, on en parle de plus en plus sous le terme de fascia. Et en fait, on sait aujourd'hui que ces fascias sont un lien qui permet à toutes les structures de rester liées les unes aux autres. C'est grâce à elles qu'on tient en un seul morceau. Ce qu'on savait moins et qu'on commence à comprendre, c'est que c'est un système vivant qui est capable de gérer par lui-même l'espace dans lequel sont déployés les assemblages des différentes fonctions. Tout à l'heure, Sarah disait que chez certains sportifs, c'était pas que l'ostéopathie qu'il fallait, mais parfois s'occuper un peu de la tête. Eh ben, on peut s'apercevoir que la tête, c'est le cerveau, et que le cerveau est un organe qui partage avec les autres fonctions cet espace, et que quand l'espace est dégradé, ça peut avoir des répercussions sur le fonctionnement du cerveau, donc sur les facultés cognitives, sur la gestion des émotions, sur les choix stratégiques qu'un sportif va prendre, parce qu'on se rend compte que le cerveau vit dans une réalité qui est la sienne, face à laquelle il va déployer des compétences et qu'il est en permanence en train d'arbitrer le pilotage de nos comportements qu'il doit laisser s'exprimer dans un espace de sécurité. C'est son job, c'est notre ange gardien. Et donc, en fait, il fera tout pour prendre la main sur nos comportements et nous imposer des actions qui ne mettront pas en danger le système. Et on voit des sportifs, je parlais avec Jean-Christophe de la finale de Zverev, par exemple. On a très bien vu qu'à un moment donné, Zverev perdait la main. Et en fait, c'est-à-dire que quand on n'a pas de qualités qui sont stables, qui sont en place, qui sont appuyées sur des systèmes qui sont performants, on est obligé de mettre en place des arbitrages qui peuvent s'imposer sur les fonctions physiques, mais également sur les choix, sur les comportements, et qui peuvent faire preuve de failles. Et quand ces failles sont mises à jour, le comportement s'en ressent et on voit des effondrements. On voit des joueurs qui passent à travers ou on voit qu'il y a une rupture tout à coup dans leur comportement.
En gros, toi, tu libères l'espace
tissulaire
absolument. Pour permettre à des joueurs de mieux se comporter sur un terrain.
Absolument.
C'est un peu ça l'idée.
Alors, à deux niveaux. C'est-à-dire, sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il faut savoir que cet espace, quand il est dans un état neutre, celui avec lequel nous arrivons sur Terre, c'est un espace parfait qu'il dispose de la place dont ont besoin toutes les assemblages des différentes fonctions. Donc, la fonction musculétique va se déployer librement. Nous allons adopter une posture qui va être équilibrée, qui va répondre à une problématique sur Terre qui s'appelle la gravité, qui a ses règles. Si on veut tenir debout, il faut se tenir en équilibre. On va pouvoir développer une gestuelle de qualité. Le problème est que si cet espace se déforme, lorsque nous sommes soumis à la gravité, il va falloir déclencher des corrections qui vont imposer au modèle de respecter les lois de la gravité. Ces corrections.
Et quand tu les vois, les corrections, justement?
Alors, les déformations, on les voit, alors, en fait, pas en charge. Parce qu'en charge, on est en version corrigée. C'est-à-dire que si on veut tenir debout, il faut être en version corrigée. Donc, la seule façon de faire un bilan effectif de ces désordres, c'est d'allonger le patient, d'attendre quelques minutes. Les corrections musculaires qui ont un coût énergétique sont débranchées par le cerveau, parce que le cerveau est un économe de l'énergie dépensée au quotidien. Le corps se détend et il se détendra là où il est libre et il va rester en tension. Là où la déformation de ce fameux espace tissulaire est permanente.
Et donc, là où tu agis, désordre, en fait. Il vient parce que quand on fait du sport, il y a forcément, quand on fait du sport à un certain niveau, on crée des déséquilibres ou c'est la tête qui, elle, envoie un message de déséquilibre.
Alors, ça, c'était le concept.
C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi. Alors, d'où vient le déséquilibre?
Alors, le déséquilibre, il affecte au départ les systèmes physiques. C'est-à-dire que cette enveloppe tissulaire, ces fameuses fibres, elles ont un rôle de soutien, mais également un rôle de protection. C'est-à-dire que c'est un système actif qui, quand une menace ou quand un traumatisme survient, le système va se ramasser sur lui-même pour faire front.
Pour se protéger.
Pour se protéger. Ouais. Tous les animaux.
Comme si se contractait, en fait.
Alors ça se contracte, mais c'est pas musculaire, c'est tissulaire.
Tissulaire.
Donc on va se retrouver temporairement dans un espace qui s'est ramassé. L'événement survient, on prend un coup, et c'est un peu comme la carrosserie d'une voiture, on va avoir une bosse. On se redéploie après. Et dans certains cas, en fonction de la violence, de l'effet de surprise, de l'état général du moment, une déformation permanente va s'installer.
Ça a mémorisé, en fait.
C'est mémorisé dans les tissus.
Le tissu a mémorisé
l'événement.
Le choc ou le désordre qui s'est créé.
Exactement. Et à ce moment-là, l'obligation est donnée à tous les systèmes qui sont à l'intérieur de se réorganiser. Ça va donner.
C'est là où ton rôle arrive.
Et c'est là où on va commencer.
Et donc, en fait, il faut déceler là où il y a le désordre tissulaire
absolument.
Pour que tout se réorganise.
C'est-à-dire que notre travail, c'est d'identifier ça. C'est de prendre en charge cette modification et de la neutraliser. Aujourd'hui, on peut le faire, on sait le faire. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, le système se relâche, retrouve son espace d'origine et la résilience naturelle des fonctions fait qu'elle se corrige spontanément.
C'est évidemment, toi Olivier, tu crois en ta spécialité. Je rappelle que c'est pas de la médecine parallèle. Hein,
c'est complémentaire. Hein,
exactement,
ce sont des soins qu'on ajoute en plus. Ouais.
Comme l'ostéopathie, quand on fait du kiné et tout ça. Toi, le but, c'est que des sportifs dépassent le plafond de verre. C'est un peu ça l'idée. Un peu comme un Zverev. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un jeu fantastique, il y a un côté mental, évidemment, quand il s'approche d'une finale de Grand Chelem, mais il y a autre chose de son corps et de son attitude.
Absolument. Et qui va jouer sur les deux niveaux. Sur le niveau physique, c'est-à-dire que plus un sportif de haut niveau a des empreintes dans son corps, plus en charge et plus en mouvement, la facture de son activité est élevée. Avec en plus un déficit de retour. Là, on est tous avec un casque et un retour son. Ça nous permet de nous entendre et de suivre ce que nous sommes en terre. Le corps fonctionne pareil. C'est-à-dire que le cerveau a un retour image de ce qu'on déclenche, des mouvements qu'on déclenche. Quand on est dans un espace modifié, la qualité du retour est dégradée et la maîtrise des gestes l'est aussi. Ce qui veut dire que quand on est en pleine forme au début et qu'on est dans un état serein parce qu'il n'y a pas de tension, ça peut passer parce qu'il y a un arbitrage qui va être suffisant. Par contre, quand les choses se compliquent, quand la tension là, liée au stress se surajoute, la contrainte qui s'implique sur le système fait que le retour se dégrade et c'est là qu'on voit par exemple Zverev qui perd son coup droit, par exemple.
Quelles sont les conséquences après?
Eh ben, t'as du mal à la retrouver.
Non, je veux dire, c'est une révolution en soi.
Complètement. Alors, surtout que ce qu'on sait aujourd'hui, et ça, tous les chercheurs dans le domaine des neurosciences ont établi le lien qui existe entre la qualité des mouvements que, depuis la naissance, nous avons pu développer et le développement du système nerveux central. C'est-à-dire que nous avons, en amont de toutes nos actions quotidiennes, c'est le cas de monsieur tout le monde, mais plus encore des sportifs de haut niveau, en fait un pilotage automatique qui gère 85% des actions que nous développons. C'est-à-dire qu'elles sont initiées en mode automatique par le cerveau qui voit, qui entend, qui sent, qui ressent, qui interprète et qui statue. Et qui, en fonction de ça, déclenche des actions. Si la vision du cerveau est réaliste et que les actions qu'il initie sont appropriées, la conscience, dans un deuxième temps, prend le relais et poursuit en colorant un peu plus, un peu moins, en accélérant, etc. Par contre, si l'inconscient cognitif, celui dont on parle, se trompe, la conscience devient un plan de rattrapage. Et donc, elle est obligée, dans l'urgence, de récupérer des situations mal embarquées. Alors, il faut savoir que l'inconscient cognitif, c'est un système ultra rapide qui nous sauve des accidents tous les jours. C'est-à-dire que lui, il est capable, en 100 millisecondes, d'interpréter et de déclencher une action. Le temps que la conscience se raccorde à ce qui est en train de se faire, il se passe 300 millisecondes. C'est 200 millisecondes plus tard.
Et je voudrais juste que tu expliques, et après Sarah, je te donne la main, juste ce qui s'est passé. Tu m'as raconté ça avec un joueur de rugby qui a reçu une commotion, et c'est vrai qu'on en parle souvent des commotions, et comment tu as pu gérer le problème?
Oui. Alors, c'est un joueur pro, hein, qui, au terme de la énième commotion cérébrale, bon, cette fois-ci est sonné, donc protocole de commotion, et puis les symptômes persistent, donc il est pris en charge par le spécialiste.
Le docteur Sherman.
Pour ne pas le nommer.
Oui.
Voilà. Et qui a développé d'ailleurs une étude récemment avec un nouveau protocole avec qui est dérivé de ce qu'on propose aux gens qui suivent des chimiothérapies qui ont des inflammations du cerveau. Ça donne de bons résultats. Et d'ailleurs, il a publié dans un journal confrère à l'équipe sur 65% des cas. Bon, il reste un ratio de gens qui ne répondent pas au protocole. C'était le cas du joueur en question qui est venu me voir. Ça a pris deux séances, deux consultations, et il a eu l'impression d'une libération sur la table. C'est lui-même qui me disait, et je l'ai encore vu hier, on en parle ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment du choc sur la boîte crânienne, le rôle de protection mécanique de l'os a absorbé une partie de la contrainte. Quand on atteint un certain seuil, qui est avant le seuil de fracture, on va avoir une réponse locale des tissus qui vont se resserrer pour protéger le système. Un peu comme si on faisait tout à coup le vide dans un sac, là, le système se replie. Alors ça, c'est tissulaire, encore une fois. Le problème est que parfois, quand l'ensemble se redétend, les tissus restant en tension, l'os ne peut pas reprendre tout à fait la forme qu'il avait initialement. Et ce faisant, ça crée une tension qui va affecter localement tous les systèmes présents. Chez le joueur en question, c'était l'origine de ces troubles. On arrive à...
Bon, c'est la vue, c'est la
mémoire. Vue, la concentration, la gestion du bruit, c'est-à-dire il était vraiment handicapé dans son quotidien. Et ben le retour, alors, un peu comme si le principe simple, vous prenez une bosse sur l'aile d'une voiture, vous appuyez dessus, vous savez, à un moment donné ça revient pas. On peut, en cherchant une combinaison dans les trois plans d'espace, trouver une position d'équilibre qui suffit à permettre à la bosse de revenir. C'est ce qui s'est passé donc chez ce joueur. Et alors là, on continue parce qu'il a encore des petites choses, parce qu'il n'a pas eu qu'une commotion, mais c'est un apport complémentaire, je veux dire, dans les suites de soins ou en complément ou en alternative, qui permet de résoudre des situations de ce genre.
Et tu peux régler pas mal de problèmes, et c'est pour ça que c'était intéressant de t'avoir dans cette émission. Merci absolument. Beaucoup, merci, Olivier Bouillon, d'avoir été avec nous pour ce nouveau concept sur l'ostéopathie tissulaire. Et je sais que certains clubs, voilà, peuvent faire appel à toi. Tu t'es occupé de nombreux sportifs dans ta carrière. Mm-hmm. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des GG avec le débat caché. Vous l'avez pas trouvé depuis 11h ce matin, et je suis très déçu. Ça semble évident pourtant. Cherchez bien, vous avez encore 3 minutes. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport avec Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Denis Charvet dans une quinzaine de minutes à partir de midi. Les paris RMC autour de cette nouvelle journée de Ligue 1 avec des matchs fantastiques. Hein. Cet après-midi, il y a PSG, il y a Saint-Etienne PSG, il y aura Monaco-Nice, le derby de la Côte d'Azur, encore Reims-Marseille. Voilà, on vous donne toutes les cotes, oui.
Et aujourd'hui, la dinguerie de Denis passe.
Ah oui, alors ça c'est dans...
Elle est
pour nous suivre hein, dans les paris RMC, non, la dinguerie de Denis.
Non mais c'est bien de
le teaser.
Voilà. De le teaser, oui bien sûr.
On verra. Enfin, tu nous donneras la cote et moi je...
Je te dis qu'un jour elle passera.
Oui. Mais ça fait combien de temps que
c'est
cette
émission? Comme Laurent Mignon, il a été gagné.
Ça fait 5 ans. Voilà, en Autriche.
Deux ans, ouais, c'est pronostic, il y aura le nul à la mi-temps.
C'est possible.
Non, oui. Non.
C'est à partir de midi, c'est les paris RMC, vous allez voir, on s'occupe de tout. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre sur un sujet d'actualité. Votre débat caché du jour, mes GG. c'est ça.
Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé.
Pendant et après la finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez a réussi à devenir la personnalité la plus détestée des Français.
Quelle occasion ! Incroyable ! Kolomouani, au bout des crampons, à la 123e minute, qui a l'occasion de mettre le 4e but et le but de la victoire. L'arrêt de Martinez, il est tout simplement extraordinaire.
Le maître du trash talking, l'homme qui ne connaît pas le respect. Dans le monde, Emi Martinez a autant de fans que de haters.
On va pas y arriver ! C'est incroyable !
Les gens me connaissent.
Dans 10 jours, le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et dans les buts du club anglais, il y a un certain Emiliano Martinez, l'ennemi public numéro 1 en France depuis ses célébrations grossières en finale de la Coupe du Monde. Et il y a un an, l'Argentin avait retrouvé le public français à Lille pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Il avait d'ailleurs sorti des Lillois au tir au but. Et pourquoi je vous parle d'Emiliano Martinez? Parce que cette semaine, eh bien, il a lancé le match face au PSG. Voici ce qu'il a déclaré. L'avantage, c'est que mon équipe aura moins de pression, car on va m'insulter. Je maîtrise parfaitement la situation contre Lille. Il m'avait sifflé pendant 120 minutes, c'est normal. Mais jamais on m'avait autant sifflé dans toute ma vie. Ils m'ont tout fait. Je n'ai rien fait pendant les 120 minutes du match et les gens m'insultaient à chaque dégagement. Après, il y a eu une séance de tir au but et je les ai fait taire. Faut-il avoir peur d'Emiliano Martinez? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Julien Benneteau. Non, non plus fort peut-être, on est.
Non.
Non, ok.
Non.
Non. La Lilloise, Sarah Pitkowski, Denis Charvet.
Oui, pour une seule raison.
Oui, bah vas-y, tu commences Denis, pourquoi oui?
Parce que là où il est très fort, c'est qu'en fait, il met le doute déjà dans la tête des joueurs qui risquent de tirer les pénalties. S'il y a une séance de
pénalty. Oui, mais Donnarumma aussi.
Non, mais oui, d'accord.
Il a jamais perdu une séance de tir.
Oui, mais c'est un mec qui est perturbant, donc forcément, lui, il commence... Ouais, tu peux en avoir peur parce que c'est.
Ouais, c'est sûr, elle se pose pas.
D'abord parce qu'il est quand même redoutable. Tu peux le détester comme on le déteste tous, mais après quand même, il faut mettre en avant ses performances quand même. C'est un gardien qui est redoutable. Il a été redoutable contre nous en finale de la Coupe du Monde. C'est un grand gardien. Et donc oui, ne serait-ce que pour ça. Voilà, il a.
Le craindre, oui, en avoir peur, oui.
Bah, le mais peur, que, peur, bah, ça oui. Veut dire quoi? T'as peur de perdre contre Aston Villa? Non, moi je.
T'as pas peur de perdre contre Aston Villa parce qu'il y a Emiliano Martinez qui est dans les buts.
Bah, t'iras jamais au tir au but. Tu penses que nous, au départ, quand tu joues Liverpool, tu penses jamais que tu as le tir au but. Tu penses que Liverpool a se qualifié contre nous. Ah ben si tu compares les deux, tu peux te mettre dans Aston Villa, c'est le PSG contre Liverpool. Dans la même situation, quand même. Donc, tu peux te dire, mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Aston Villa, ça va être très, très dur.
Ça allait pas être dur.
Mais tu peux très bien aller au tir au but. Moi, dans ce sens-là, je me dis que ce mec, ben, il est très fort parce qu'il attaque 15 jours avant et il nous met le truc dans la tête.
Le crabe.
Le crabe dans la tête et voilà. Ce mec, je le déteste. En même temps, je trouve qu'il est étonnant.
Ok, étonnant. Ouais. Qui veut
il
prendre la main?
Il a une grande bouche.
Enfin, il grande gueule, beaucoup. Tu peux dire. Il y a l'émission de grande gueule. Hein. Tu peux dire qu'il y a une grande gueule.
Oui, il a une grande gueule. Oui, il a une grande gueule. C'est lui aussi qui répond à Rafinha sur le match Argentine-Brésil.
Oui. Et qui le pousse même, qui l'agresse, qui lui met un coup d'épaule.
Mais je suis pas fan de ta contre-attaque. Ça a fait fouet.
Je suis complètement Team Sarah. Oui, c'est-à-dire que toutes nos autres propositions étaient bien meilleures.
C'est un débat caché.
On t'a proposé une liste de super trucs.
Ah ouais, de super trucs. Et là. Attendez, le débat, c'est donc de savoir si c'était bien comme débat caché.
C'est pas parce que t'as pas de réponse. Non, parce qu'elle a pas de réponse. Donc tu vois,
je pense qu'il faut pas avoir peur de lui pour revenir sur ce débat. Tout simplement parce que s'il y a une séance de tir au but, je pense que Donnarumma fait largement aussi peur, voire plus peur, parce que sportivement, au tir au but, il est très très fort. Et il l'a prouvé contre Liverpool de nouveau. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, je pense que le PSG va se qualifier bien avant les tirs au but aussi. Voilà, et que pour moi, c'est un événement, cette ouverture de gueule de la part de Martinez. Et je rejoins Sarah sur sa remarque.
T'as vu un Marseillais qui parle du PSG comme ça en disant, moi, se qualifier facilement. C'est
jusqu'ici, on avait fait une très bonne émission. Je m'attendais presque à une double prime. J'étais pas loin, mais là, je vais peut-être la retirer. Simon Dutin.
Ouais, c'est un fou furieux, hein. Il a grandi à Mar del Plata dans un barrio. C'est un mec qui connaît ni la peur, qui se shoot à l'adrénaline, comme on dit dans Point Break. C'est le genre de mec qui peut prendre 4 buts contre Brentford ou Southampton et faire le match qu'on l'a vu faire en finale de Coupe du Monde. C'est rare qu'un gardien, à l'heure actuelle, sur le plateau du foot mondial, fasse autant parler de lui, sur et en dehors des terrains, il est capable de rentrer dans la tête de l'adversaire. Alors après, faut-il avoir peur? Je me mets à la place des attaquants du PSG qui se disent « Oula, c'est Martinez dans les buts, on n'a aucune chance, évidemment. J'y crois
non, mais
pas, mais pour moi,
pas ce niveau-là.
Pour moi, c'est la star d'Aston Villa. Oui. Il faut des mecs qui sortent un petit peu du gazon, du précaré, du terrain pour animer ce genre d'avant-match. Moi, c'est un mec que j'ai appris à admirer. Évidemment, on l'a tous détesté, mais bon, ce qu'il a fait pour son pays, s'il l'avait fait pour nous, bah, ce serait évidemment une légende. Il faut savoir reconnaître voilà, que malgré, derrière la vulgarité, la grossièreté, c'est quand même un immense joueur qui a fait gagner son équipe, qui défend ses coéquipiers lorsqu'il y a besoin. Et bon, dans ce genre de, à ces altitudes-là, ça peut servir. C'est pas, en tout cas, c'est pas le maillon faible d'Aston Villa. Après, faut-il en avoir peur? Doucement, quand même. Je pense que tout le monde, lui, à mon avis, si nous on a peur de Martinez, j'espère qu'il a peur de Dembélé, Barcola et consorts, parce que je pense que
bah, à mon avis,
y a plus
il en
à
a
craindre
pas peur.
Du côté
comme
de Birmingham.
Il a peur de rien. À mon avis, il a absolument pas peur des attaquants du PSG.
C'est certain.
Et puis peut-être que celui qui avait peur, c'est Kolo Muani, et le PSG l'a fait partir. Donc toi, ils auraient été malins.
Bravo. Bien joué. Terminer là-dessus parce que je sens que bah, vous avez pas envie de débattre sur moi.
J'ai débattu quand même.
Attends, je t'ai donné des arguments aussi. J'ai débattu aussi. Je t'ai donné des arguments.
Mais attends, Sarah, toi tu le détestes. En tant que Lilloise, tu le détestes pas?
Bah non, enfin oui. Je m'en fous de ce type, quoi.
Voilà.
Je m'en fous de ce type. Ce qui va sortir, je m'en contrefous.
Voilà. Elle t'a répondu. Elle a pas aimé, elle a pas aimé ta...
Et j'espère que le PSG va lui en mettre un certain nombre, ouais.
J'ai l'impression qu'elle a pas aimé ton débat caché.
Ouais, ouais. Tu m'avais proposé quoi d'ailleurs, Sarah? Je me souviens.
Mais moi, je t'avais proposé Alizé Cornet. Il y avait aussi le cas d'Alexis Lebrun. Enfin, il y avait plein de sujets.
C'était quoi? C'était pour ou contre Alizé Cornet qui fait son retour?
Je sais pas.
Ouais. Les copains, vous savez qu'il y a une émission demain.
Oui, voilà.
Vous savez qu'il y a une émission demain.
C'est quoi demain?
Un autre débat caché.
Nos idées.
Je peux pas vous le dire parce que si je vous le dis, évidemment, c'est plus caché. Évidemment, je sais que toutes les GG qui seront là demain. Mais écoute, bah Sarah, toi, tu seras là.
Ouais.
Il y aura Fred Weiss, il y aura David Douillet et il y aura Simon Dutin. On parlera de la NBA Europe. On parlera également de Trump avec deux événements sportifs majeurs qui vont arriver. Il y a la Coupe du Monde et il y a aussi les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter? Ce sera notre débat et ce sera passionnant dans les grandes gueules du sport demain.
Émission.
Merci beaucoup les GG.
À la dinguerie de Denis maintenant.
Merci Julien.
Vous pouvez m'écouter,
ouais. Si vous voulez perdre un petit peu d'argent.
Denis Charvet, je te garde avec moi. Les Paris RMC dans quelques instants où nous allons parler de cette journée de Ligue 1 fabuleuse. Le PSG peut déjà être titré. C'est possible.
Ok. C'est pas un débat, ça?
Je sais pas si c'est très bon pour la Ligue 1, Jean-Christophe.
Est-ce que c'est bon pour la Ligue 1 s'ils sont titrés aujourd'hui?
C'est un excellent débat à 9h à retrouver en podcast. Mmh. Déjà disponible en podcast.
Au revoir, Jean-Christophe.
Au niveau du débat caché, je sais pas si vous avez envie de le podcaster. Vous n'êtes pas obligé.
Les Paris sportifs, il y a notre ami Roland Courbis qui est là aujourd'hui.
Évidemment. Toute la bande, Lionel Charbonnier, Christophe Payet. Allons, bon
Charbonnier, bien sûr.
Salut, MC. À tout de suite.